Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous, c'est tout d'abord un jeune homme de 19 ans interpellé par la police nationale après une course poursuite entre Rochefort et La Rochelle dans la nuit de dimanche à lundi. Il a refusé d'obtempérer à un contrôle des policiers avenue Daunis à Rochefort et s'est engagé sur la 4 voies. Il a finalement été arrêté dans sa course grâce à des herses installées sur la chaussée au niveau de La Rochelle. Le chauffard a été placé en garde à vue. Des parlementaires Charentais-Maritimes vont debout contre l'organisation de la nuit du bien commun demain soir à Benon, au nord de Surgères. Dans un communiqué, le député socialiste de Sainte, Fabrice Barusso, celui de Rochefort, l'écologiste Benoît Biteau, le modem Olivier Falroni et le sénateur socialiste Michael Vallée dénoncent l'organisation d'une soirée particulière. Une grande soirée de levée de fonds au service d'associations présentent les organisateurs sur leur site internet. Mais pour les parlementaires, il s'agit d'une instrumentalisation des associations et des clubs sportifs par l'extrême droite. L'initiateur de la nuit du bien commun, c'est le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin qui, pour ses opposants, pratique de l'enrôlement abusif. Le Rupella Basket de La Rochelle a failli faire partie des lauréats sans donner son accord, explique Benoît Biteau.
La méthode est une forme d'enrôlement abusif, c'est-à-dire qu'ils repèrent des clubs sportifs, des associations, des projets qui peuvent être en difficulté de financement. Il arrive avec le chéquier grand ouvert, il finance ces gens-là, et ceux qui ne sont pas suffisamment vigilants, qui se font repérer avec une initiative, se voient financés par des fonds d'extrême droite et enrôlés abusivement par ce genre de méthode. Et donc, c'est ce dont a été victime, entre guillemets, le stade Rochelet Basket Rupella, qui se retrouve à être identifié avec un projet digne de financement au regard de Pierre-Édouard Sterrin, mais qui, sans savoir que derrière la nuit du bien commun, il y avait un financeur d'extrême droite. Donc c'est la raison pour laquelle ils se sont rétractés et qu'ils refusent le soutien de cette fondation.
Une soirée placée sous le signe de la philanthropie, mais pas au service d'une idéologie réactionnaire, déplore Benoît Biteau.
Je suis pas fâché avec la philanthropie, bien au contraire. Mais la philanthropie, normalement, elle est apartisane. La philanthropie, normalement, ne vient pas faire de l'ingérence dans les projets des gens qui bénéficient de cette philanthropie. C'est pas du tout la méthode de Pierre-Édouard Sterrin et de la nuit du bien commun et des fonds du bien commun. C'est une façon d'infiltrer des réseaux pour y faire prospérer des idées d'extrême droite. Et c'est pour ça que moi j'ai voulu qu'on rédige ce communiqué de presse pour faire un point de vigilance. Et si je suis à l'initiative de ce communiqué de presse, c'est que la nuit du bien commun est à Benon, une commune de ma circonscription. Et donc moi je peux pas laisser passer des fonctionnements, des méthodes abusives que sont celles de Pierre-Édouard Sterrin qui vient s'installer pour une nuit sur ma circonscription. C'est pas possible.
Pour ou contre la nuit du bien commun se déroule, elle, demain soir à Benon, à l'abbaye de la Grâce-Dieu. Nous avons tenté de joindre les organisateurs qui ne nous ont pas répondu pour l'instant. Le parking de l'hôpital de Sainte prit en exemple pour une future loi sur la gratuité des parkings hospitaliers. Fabrice Barusso, député socialiste de Sainte et Saint-Jean d'Angély, a fait visiter les installations du nouveau parking Sainte à son collègue de Meurthe-et-Moselle, Stéphane Ablot, parlementaire également socialiste. Ce dernier travaille actuellement à une proposition de loi pour garantir la gratuité des parkings hospitaliers pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail. Dans certaines grandes agglomérations, les parkings sont gérés par des grands groupes privés. Le parking de l'hôpital Sainte coche quasiment toutes les cases de la future proposition de loi, comme l'explique Stéphane Ablot.
Ça reste quelque chose de public, c'est courageux, c'est gratuit pour le personnel, c'est gratuit pour ceux qui viennent faire des consultations qui sont hospitalisés. Alors là où il y a un petit bémol, c'est une heure gratuit, et puis la deuxième heure elle arrive vite hein, pour les visiteurs, et là c'est tout de suite 50 centimes le quart d'heure, ça fait beaucoup voilà, faut pas punir les usagers. Par contre bah, l'idée de faire un nouveau parking, le moderniser, mettre des plaques photovoltaïques pour réduire le coût de l'électricité pour l'hôpital avec un gain de 10% sur l'ensemble de la consommation, ça c'est super. Voilà, l'effort reste à faire, mais moi je donne pas de leçon. J'essaye de voir comment on peut rester aux côtés des publics et la deuxième heure gratuite, là, ça tombe bien que la loi se mette en place si elle est votée. Maintenant, c'est une autre paire de manches, mais voilà, j'ai pas fait le chemin pour rien.
Stéphane Abloh avait déjà alerté le ministre de la Santé, Yannick Neuder, sur le scandale des stationnements payants. C'était en février dernier. Le ministre s'était alors engagé à en discuter avec les directeurs de CHU. Pour le député, il en va de la dignité et du portefeuille des Français.
Quand on va voir quelqu'un à l'hôpital, on a besoin aussi de l'accompagner et on n'a pas besoin d'être un tiroir-caisse. On n'a pas besoin non plus d'être le dindon de la farce. Pour payer ce qu'on paye déjà par ses impôts, et à un moment donné ça suffit. Donc moi c'est une loi pragmatique, pratico-pratique. Allez, on discute pas, on n'est pas dans les débats politiciens, dans les débats stériles, camp contre camp. On est dans quelque chose de concret. Moi j'étais maire d'une ville où on a besoin de rassurer les habitants pour leur dire c'est pas gratuit totalement, dans le sens où on veut pas de l'assistanat parce que c'est pas bon non plus, mais c'est pas non plus payant où on va faire du racket. Ben c'est pas le cas. On est dans quelque chose de raisonnable. 2 heures, c'est le minimum qu'on doit à ceux qui viennent visiter les malades.
La proposition de loi doit maintenant être examinée par le Parlement. Le député évoque aussi la possibilité d'un décret par le ministre pour une adoption plus rapide de la loi. Un reportage signé Adrien Vivenne. À La Rochelle, la CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, lance un appel à celles et ceux qui recherchent un médecin traitant déclaré. En 2024, les 70 ans et plus étaient 798 sans médecin traitant. Ils ne sont plus que 573 actuellement, mais l'effort se poursuit. Si vous êtes concernés, rendez-vous sur le site internet de la CPTS de La Rochelle, rubrique Nos aides. Il est 12h13 sur Demoiselle, on se retrouve dans un instant.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
La suite de ce journal avec à Rochefort le futur emménagement des services mutualisés de la ville et de la communauté d'agglomération sur le site Saint-Charles approuvé par les élus municipaux. Au dernier conseil, ils ont donné leur feu vert à une participation financière de 50% pour que l'ancien hôpital accueille sur 2,5 étages les directions ressources mutualisées de la ville et la CARO. Les autres 50% sont réglés par la CARO. Plus qu'un regroupement, ce déménagement va contribuer à la revitalisation du centre-ville et permettre de faire des économies, a souligné le maire Hervé Blanchet.
Donc le principal bâtiment conservé va être réhabilité, opération mixte, habitat, tertiaire, portée par la foncière de Charente-Maritime qu'on appelait la SEMPAT. Donc la réhabilitation du bâtiment participe aux enjeux prioritaires de sobriété foncière, de densification urbaine et à notre projet de territoire. Et la CARO, qui a décidé donc de relocaliser son siège administratif et plusieurs directions en cœur de ville, l'agglomération va acquérir auprès de la foncière des plateaux correspondant à la moitié du rez-de-chaussée et les 2 niveaux supérieurs. Toutes les directions ressources mutualisées entre l'agglo et la ville de Rochefort seront relocalisées dans le principal immeuble, donc dans ces étages-là, ce qui va contribuer à la revitalisation du cœur de ville en apportant de nouvelles activités, notamment des services au public, et en favorisant la fréquentation du centre-ville par les salariés, les usagers des services, les élus communautaires. C'est la suite de ce projet. La CARO achète, on participe à hauteur de moitié en raison de tous les services mutualisés qu'on a évoqués, notamment dans le rapport de la Chambre générale des comptes, et qui a été pointé comme une source d'économie.
Les agents de la ville à la CARO seront donc plus tard regroupés à l'ancien hôpital Saint-Charles. Reste à définir l'avenir des locaux des Fourriers et sur ce point, Hervé Blanchet n'a pas d'inquiétude.
On a des pistes de location, on a des pistes d'acquisition, mais pour l'instant c'est vraiment pas décidé. On a du répondant ici. C'est-à-dire que l'endroit, avec tout ce qui se passe derrière nous, avec l'activité économique à proximité, il y a des demandes. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour le devenir de nos locaux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être désaffectés, ils ne vont pas être abandonnés, ils ne vont pas être squattés. C'est une certitude, ça. Donc voilà. Et on récupérera soit effectivement en location du fonctionnement, soit après du capital si on vend, et le capital on réinvestit dans ce que l'on fait sur l'agglomération. Mais évidemment, dans l'hôpital Saint-Charles, l'idée aussi est d'avoir des résultats énergétiques en termes de consommation et de confort de nos employés, de nos agents. Donc le projet va être très, très fin et très, très abouti.
Montant de la participation financière de la ville pour emménager à Saint-Charles, 4 434 000 euros hors taxes. Le montant total ville plus agglo est de 10 624 000 euros TTC. Des Néo-Zélandais descendants d'un Rochefortais en visite dans la cité de Colbert. Les petits-enfants de Joseph Libaud ont été accueillis par la première adjointe Caroline Campodarve-Pointé en mairie. C'est la quatrième fois qu'un tel voyage est entrepris par les descendants du Rochefortais. Ils sont déjà venus en 1990-2007. Pour cette visite, la mairie a travaillé avec le service des archives. L'annonce de recrutement auquel a répondu Joseph Libaud au 19e siècle a été retrouvée. Marina Pellerin, responsable adjointe des archives de la Caro.
En 1839, on conserve le journal des Tablettes des Deux-Charentes. À la date du 27 décembre, il y a un encart publicitaire qui est en fait pour réaliser des recrutements de candidats pour partir en Nouvelle-Zélande depuis Rochefort. Et en fait, c'est inscrit les personnes qui désiraient s'embarquer sur le bâtiment du roi, le comte de Paris, en qualité de colon pour la partie sud de la Nouvelle-Zélande, où va se diriger l'expédition qui se prépare au port de Rochefort, sont invités à s'adresser à Monsieur Humbert et Hérault, négociant mandataire de la compagnie Nantes-Bordelaise. Cet article, on l'a aux archives Rochefort-Océan. On peut s'imaginer que vivant à Rochefort, Joseph Libaud a pu découvrir cet encart. Et donc il décide de partir pour la Nouvelle-Zélande en février 1840.
Et lors de la réception en mairie, Caroline Campodarve a pu présenter l'ensemble du travail de recherche aux nombreux et nombreuses descendants. À Rochefort encore, coup d'envoi aujourd'hui des universités de la biodiversité, 7e édition. Le thème cette année, le jardin au naturel. Premier rendez-vous, la projection du film La ferme de Bertrand de Gilles Perret à 20h au cinéma Apollo.
Demoiselle, interview.
Avec nous dans ce studio, Denis Roland, bonjour.
Bonjour Manuel, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes le trésorier du...
Secrétaire. C'est le trésorier montant, il ne va pas être content, donc comme il est plus fort que moi, il faut que je fasse attention.
Ok, on respecte alors. On parle ensemble du cycle de conférences du CERMA qui a commencé hier. Oui. Rappelez-nous en fait en quoi consiste déjà ce cycle de conférences.
Alors le CERMA c'est une association qui est fort ancienne, elle a plus de, on ne sait même pas très bien, mais elle a probablement 45 ans, quelque chose comme ça. Et chaque année, le CERMA organise un cycle de 5 conférences. Du lundi au vendredi, sur un thème en lien avec l'histoire de la marine, l'histoire de Rochefort et généralement les deux. L'idée, c'est que à Rochefort, il y a plein de patrimoine, il y a de l'histoire partout, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'historiens, donc il faut les faire venir, les rassembler, les faire dialoguer. Donc on fait venir des universitaires, des spécialistes, mais qui ne parlent pas à d'autres spécialistes, qui parlent à tous, à ceux que l'histoire intéresse plus ou moins. Et c'est ça l'idée du CERMA, c'est assez simple, mais encore fallait-il le faire.
Le thème cette année, c'est la Charente, Rochefort au fil de la Charente.
Oui, on a choisi ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement la Charente, c'est l'acteur central de l'histoire maritime de Rochefort. Hein. Tout passe par là, les échanges. Si Rochefort est choisi pour international, c'est parce que c'est un fond d'estuaire, ça protège parfaitement des ennemis venus de la mer, mais ça amène aussi d'autres difficultés liées à notre ami Lavaze. Et puis on a choisi ce thème aussi parce qu'il se trouve qu'en 1985, il y a donc 40 ans, c'était le sujet de la première exposition du Centre international de la mer à la Corderie. Et donc on a eu envie aussi de fêter, avec nos amis du CIM, de fêter cet anniversaire. Le Centre international de la mer est un compagnon de route très ancien aussi du CERMA, donc on n'a que des amis là-bas. Donc voilà, on fait un deux en un en fait cette année, le fleuve et la Corderie, mais enfin c'est vraiment le fleuve qui est le cœur du sujet.
Et donc vous avez commencé hier soir en accueillant Emmanuel de Fontaigneux, le directeur. Vous poursuivez ce soir sur un autre thème, la circulation des masses d'eau.
Oui, alors ça c'est, pour une fois, c'est pas une historienne que nous allons accueillir, mais vraiment une scientifique, Isabelle Brenon, qui travaille à La Rochelle, est spécialiste, alors c'est une hydrogéologue, bon, si vous avez jamais vu d'hydrogéologue, c'est le moment d'en croiser, et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les mouvements des masses d'eau et de la sédimentation du limon dans l'estuaire de la Charente. Alors pour nous c'est très important, parce que finalement toute l'histoire se passe dans ce cadre-là physique. Et c'est vrai que les historiens, des fois, ils vont un petit peu vite. Là, au moins, on va avoir quelqu'un qui connaît son affaire, qui va nous dire réellement ce qui se passe dans l'estuaire, quand ça monte, quand ça descend, et figurez-vous que ça flocule à tout va dans l'estuaire. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, je vous invite à venir écouter Isabelle Brunon à l'école de médecine navale à 18h30 ce soir.
On déroule encore le programme avec demain soir, alors attention, accrochez-vous, l'activité du fleuve et de la rade au prisme des épaves et de l'archéologie sous-marine, c'est-à-dire
que Pierre-Emmanuel Auger qui fera cette conférence, il est archiviste de profession, mais c'est quelqu'un qui aime plonger. Et il plonge pas n'importe où, puisqu'il plonge dans l'estuaire, ce qui est courageux, hein, parce que d'abord on voit pas à 20 cm, et ensuite c'est assez dangereux, hein, y a pas mal de courant, mais il y a aussi énormément de restes archéologiques, parce qu'on a beaucoup bazardé par-dessus bord, puis on a beaucoup coulé aussi, on a beaucoup tiré sur les Anglais dans cet emplacement, donc il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à retrouver. L'archéologie dans l'estuaire de la Charente, ils sont pas très nombreux à en faire, mais Pierre-Emmanuel Auger, il en fait, il va nous dire comment ça se passe et ce qu'on y trouve.
Jeudi, vous évoquez les défenses de l'arsenal de la mer des Pertuis.
Oui, et on est très content de retrouver le grand Nicolas Fauchère, qui n'est plus à Rochefort depuis des années, mais qui a longtemps s'est beaucoup investi dans cette ville, et qui est un grand spécialiste de l'histoire des fortifications. Donc là, on va reparler de tous ces forts qui ont été implantés depuis le XVIIe siècle le long de la Charente, et lui, il va les aborder sous un angle un peu particulier, parce qu'il pense qu'il y a énormément d'innovations qui ont eu lieu ici. On a essayé des choses, alors on l'a fait en fortification et on l'a fait aussi dans d'autres domaines, donc il va nous expliquer dans quelle mesure on a ici une espèce de catalogue de l'architecture des forts qui s'est imaginé, inventé, implanté dans l'estuaire de la Charente.
Et vous concluez ce cycle avec le club d'histoire de Tonnerre-Charente.
Oui, qui est aussi un compagnon qui nous accompagne depuis plusieurs années. Et là, on va accueillir Thierry Sauzeau, qui lui va parler justement un peu, on va remonter un peu vers l'amont, il va montrer un peu comment est-ce qu'on a aménagé l'estuaire jusqu'à Tonnerre-Charente pour les besoins de la navigation. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on connaît moins, et ce sera l'occasion d'en parler avec lui. J'en profite pour dire qu'il y a un petit changement de lieu, ce sera toujours à Tonnerre-Charente, mais on devait initialement être au hall de Tonnerre-Charente, et pour diverses raisons nous ne pourrons pas, donc on sera à la salle des fêtes. C'est rue Joliot-Curie, en face du collège. Bon, c'est pas très loin, il y aura un petit fléchage pour les gens qui n'auront pas l'information.
Si on souhaite assister à ces conférences, on fait comment ?
Eh bien, on a une condition à remplir, c'est d'en avoir envie. C'est surtout ça. Eh bien, en fait, on vient un peu avant 18h30 dans ces différents lieux. Et c'est gratuit. Si on a envie de soutenir le CERMA, mais c'est pas une obligation, bien que ça nous fasse plaisir, bien on peut adhérer, ça coûte 25€. Et ce qui nous permet, nous, de continuer de faire des conférences, parce que la gratuité est pour nous important. Ça fait partie de la logique des spécialistes qui parlent à tous. Et donc toutes les curiosités doivent pouvoir se retrouver dans ces conférences.
Denis, Roland, merci beaucoup.
Merci beaucoup, bonne journée.
On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Demoiselle, la météo.
Encore un peu de grisaille, Pierre.
Eh oui, ça va être le programme de ce mardi, avec peut-être même quelques gouttes attendues cet après-midi sur la partie est du département, avec un léger vent de secteur nord. Côté des températures et des maximales, nous aurons pas plus de 18 degrés aujourd'hui. On va relever 17 à Sainte, Pont-sur-Gère et Saint-Savinien-sur-Charente. Et donc 18, la maximale attendue à Puy-du-Lac, Soubise, La Rochelle, Broyé et Saint-Trojan. Pour demain mercredi, eh bien, retour d'un temps plutôt agréable, ce coup-ci avec de belles éclaircies, et cette tendance semble se confirmer pour le reste de la semaine. En revanche, on a toujours des températures bien fraîches, notamment le matin, donc il faut continuer à sortir les manteaux.
L'élégance, c'est d'abord une question d'harmonie. Alors pour mes fenêtres, mes stores et mes volets, j'ai choisi Storiste de France. Comme tout est fabriqué sur mesure et en France, je suis sûre du résultat et de la qualité de pose. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
La maison du store, Storiste de France, c'est deux adresses. Chemin du Puy-Vineux à Rochefort, après le rond-point de l'avion, direction La Rochelle, et 92, avenue de Bel Air à Saint-Pierre-d'Oléron.
Storiste de France.
Fenêtres, stores, volets.
Conditions sur storistedefrance.com.